C'est jeudi, presque le week-end et la belle visite, évidemment. Serge Capistran, allô?
Bonjour, Jocelyne.
Pourquoi papa?
Pourquoi papa?
Ouais, c'est quoi cette semaine?
Ben, cette semaine, c'est les lunettes.
Pourquoi on porte des lunettes?
Oui, pourquoi on porte des lunettes? La question que j'ai tenté de répondre, mais malgré moi, j'ai été entrecoupé par une deuxième question qui était « D'où viennent les lunettes? » Alors,
pas bête.
Alors, j'ai pas eu le temps de répondre à la première, mais la deuxième a suscité davantage d'intérêt.
Okay.
Fait que j'ai fait un petit peu de recherche. Et puis, bon, d'où viennent les lunettes? Eh bien, de l'Antiquité. On parle du 1er siècle. On constate déjà qu'un objet observé à travers un ballon de verre rempli d'eau apparaît plus gros. Donc, les premiers constats se font à cette époque. À la même époque, il y a un philosophe qui s'appelle Pline l'Ancien qui décrit l'utilisation d'une émeraude par l'empereur Néron pour suivre les combats des gladiateurs.
Okay.
Alors, est-ce que c'était quelque chose de métaphysique ou c'était peut-être, possiblement, la première lentille optique pour corriger la myopie? On ne sait pas encore, mais bon, on pourrait deviner. Le Moyen Âge voit se développer dans les monastères, en particulier l'usage de la pierre de lecture, qui est une espèce de loupe grossissante posée sur le texte, destinée à combattre les effets de la presbytie. Bon, leur invention est parfois attribuée à un barbare andalou au 9e siècle, connu pour avoir mis au point la technique de taille du cristal de roche. Les travaux d'Alhazen, qui était à cette époque-là le fondateur de l'optique physiologique autour de l'an 1000, donnent un fondement scientifique à cette technologie. Son traité a été traduit en latin au 12e siècle, peu avant l'invention des lunettes de correction de la vue en Italie. L'Italie et la France vont jouer quand même un gros rôle dans le développement de la lentille. Avant d'être en verre, les pierres de lecture étaient réalisées en pierres semi-précieuses, des lentilles surfacées de béryl ou en cristal de roche parce que la technique de fabrication du verre à cette époque-là provoquait trop de bulles et d'impuretés. Le moine franciscain Roger Bacon s'appuie sur les travaux d'Alhazen pour expérimenter des pierres de lecture en verre. Dans son opus de 1268, il apporte la preuve scientifique que le surfaçage particulier de verre lenticulaire permet d'agrandir les petites lettres. C'est au 18e siècle, à Florence, que l'on met au point une paire de verres enchâssés dans un cercle de bois dont l'épaisseur et la courbure permettent de grossir à la fois les objets et les textes.
Au 18e siècle.
18e siècle. Ça a parti quand même davantage avant ça, mais ça, c'est surtout à cette époque-là que ça s'est développé, 17-18e. Alors, la lunetterie et l'ophtalmologie se développent dès lors beaucoup en Italie. Les premières bicycles, qui étaient les verres de l'époque, les lunettes sans branches qui se fixaient sur le nez, apparaissent à Venise à la fin du 18e siècle. Elle consiste en deux lentilles convexes, rondes de verre qui vient de Murano, aux qualités optiques supérieures, enchâssées dans des cercles de bois, en corne ou en cuir et attachées individuellement à des manchons rivetés par un clou. Ces lourdes bicycles clouantes, principalement utilisées par les moines copistes, permettent aussi la vision binoculaire qui n'améliorait pas nécessairement la presbytie. L'invention de l'imprimerie, bien entendu, accroît la demande des lunettes. Au 15e siècle, pardon?
Si on veut lire.
Oui. Au 15e siècle, les bicycles évoluent avec le remplacement du clou par un pont qui peut être en bois, en métal, en corne, en cuir, en écaille de tortue ou même en fenon de baleine. Alors, ce sont les bicycles à pont arrondi. On voit déjà une petite évolution. Elles seront munies dans le siècle suivant d'un ruban rouge derrière la tête d'une ficelle pour assurer un meilleur maintien. Après le Moyen Âge, les verres concaves apparaissent pour les myopes à Florence en 1440. En 1645, Jacques Bourgeois améliore les bicycles en imaginant des verres concaves du côté de l'œil et convexes de l'autre côté. En 1728, il y a un opticien anglais qui s'appelle Edward Scarlett qui a créé les premières montures avec de courtes branches terminées par un anneau métallique, parfois de recouverte de velours pour le confort, qui se plaquaient sur les tempes. On les appelle les lunettes à tempes. Elles seront essentiellement portées par les nobles. Les courtes branches permettent le retrait de la lunette sans déranger la perruque.
Okay, oh mon Dieu.
Lorsque la perruque cesse d'être à la mode, Scarlett innove en rallongeant les branches et en courbant les extrémités de façon à ce qu'elles se fixent derrière les oreilles. Et c'est là qu'on voit apparaître la lunette plus moderne. Les bourgeois, quant à eux, continuent quand même d'utiliser le binocle au 17e siècle ou le face à la main, la petite lunette qu'on prend pour aller au théâtre.
Oui, oui, oui.
Et ces derniers étant concurrencés aussi par le monocle et le pince-nez au 19e siècle. En 1752 apparaissent les lunettes de verre teinté. C'était pas des lunettes soleil proprement dites, mais c'était vraiment des lunettes correctrices parce qu'on considérait à cette époque-là que la teinte bleue et verte pouvait corriger la vision. Ils seront munis par contre de branches articulées par une charnière qui diminue beaucoup l'inconfort des branches des lunettes à tempes qui mettaient une pression, des fois qui pouvaient occasionner des maux de tête. Les verres étaient ronds jusqu'à la fin du 18e siècle, mais dès lors, en Angleterre, on voit l'avenue des verres ovales. Donc, plus petites, de meilleure qualité aussi. Ces verres allègent considérablement la monture plus légère. Les lunettes à double foyer sont créées en Angleterre aussi à cette époque-là, 18e siècle. 1796, M. Pierre-Hyacinthe Cassou, qui est un maître cloutier à Morel, s'inspire des Anglais pour produire déjà des montures en métal. Il adapte la technique propre à l'art du métal pour réaliser une fine monture. Alors là, on va voir les montures en fil de fer qui sont vraiment, vraiment, vraiment plus légères.
Et c'est cute.
Alors là, ça connaît un grand succès et Morez devient un peu la ville de la lunetterie à partir de ce moment-là en France. 19e siècle, ben, les lunettes se démocratisent beaucoup, mais sont jugées quand même inesthétiques. Alors leur production de masse, grâce à la mécanisation, supplante désormais tout ce qui est artisanal. 1825, on invente des verres correcteurs corrigeant l'astigmatisme.
Okay.
Et puis, 500 ans plus tard, après l'apparition des bessiques fixés sur le nez, on voit apparaître aux alentours de 1840 les pince-nez qui sont beaucoup plus légers, portés par les hommes, les femmes. Ils vont quand même être populaires jusqu'en 1935. Alors là, on s'approche de notre époque. En 1959, le premier verre progressif est inventé pour corriger la presbytie. Et au milieu des années 50, c'est là qu'on voit apparaître vraiment dans le domaine de la lunetterie tout ce qui est mode avec le moulage de plastique. Là, les inventeurs peuvent y aller avec beaucoup de création. Les lunettes ne sont plus désormais qu'une prothèse médicale, mais quelque chose de mode.
Un look.
Alors, 1980-90, là, il y a l'apparition des designers de lunettes qui présentent dans des salons internationaux tout le truc. Avec le développement du dépistage, la fatigue oculaire, le remboursement aussi des lunettes par les mutuelles d'assurance, le marché lunettes a évolué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Selon l'UFC, en France, 2012, 13 millions de lunettes ont été vendues, ce qui correspond à peu près à 4,7 milliards d'euros ou 7 milliards d'argent canadien. Et là, on voit aussi toutes les niches ajoutées, les verres durcis, anti-buée, anti-ci, anti-ça. Là. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment un marché qui s'est développé beaucoup. Et le marché de l'optique pèse maintenant 10 fois plus que les dépenses de la santé en ophtalmologie. Excusez-moi. Fort heureusement, on consomme beaucoup, mais on envoie aussi nos lunettes en Afrique, dans les pays sous-développés. Alors, c'est une très belle habitude. Il y a un monsieur qui s'appelle Joshua Silver qui a trouvé peut-être une solution aux gens qui sont dans le besoin dans les pays en sous-développement. Il a inventé une lunette qui coûte à peu près 20$. En fait, c'est deux minces couches de plastique qui vont remplir de silicone jusqu'à temps que la vision soit bonne. Alors, selon ta vision, il y a juste en injectant une quantité X d'huile de silicone. Ça coûte à peine 20$. Là, pour l'instant, il y en a à peu près 30 000 qui sont distribués en Afrique ou en Europe de l'Est, mais d'ici 2020, il devrait en avoir 1 milliard. Et puis, pour l'instant, là, ça, c'est les programmes humanitaires qui en bénéficient beaucoup. Puis, j'ai pensé aux lunettes aussi parce que 9 mai, c'était la fête de M. Ferdinand Monnoyer, qui était nommé en 1836. C'est le promoteur de la notion d'unité de puissance optique. C'est lui qui, en 1872, propose l'utilisation de la dioptrie pour mesurer la puissance des verres. Et c'est drôle parce que lui, on connaît pas vraiment son nom, mais on le voit quand on va chez l'optométriste. C'est lui qui a inventé les tableaux avec les grosses et les petites lettres.
Okay, oui,
et vous remarquerez, il y a des...
Oui,
c'est encore utilisé dans le monde. Puis il y a deux acrostiches avec son nom. À droite, on peut voir Monnoyer DM, si on lit du bas vers le haut, qui veut dire docteur en médecine. Et à gauche, Ferdinand. Voilà, c'était son caméo.
On va remarquer ça la prochaine fois.
Oui.
Et puis, c'est vrai, heureusement, elles sont belles maintenant, les lunettes fonctionnelles, évidemment.
Bien sûr.
Surtout les enfants qui n'aimaient pas trop ça.
Ben oui.
Et puis, même les adultes, alors ça, c'est une question de look aussi.
Ça fait partie des nouveaux marchés qui ont niché dans l'évolution de la lunetterie, les enfants et tout ça. Là.
Voilà. Merci infiniment encore une fois, Serge Capistran. On est plus savants encore.
Ben, ça me fait plaisir.
Bye bye.
Bonne journée.